Moi, c'est Arthur. Est-ce qu'on doit vous appeler maître ou monsieur quand vous êtes un avocat?
On dit maître, un avocat, mais c'est indifférent en la circonstance, franchement. Et vous pouvez m'appeler Basile, même, je trouve ça plutôt mieux.
D'accord. Bonjour Basile. Première question, quelles sont les limites de l'humour par rapport à la loi française?
France Inter, Interclasse.
Moi, j'ai du mal à voir comment est-ce que la crise peut amener une crise de conscience. Enfin, par exemple, vous parlez de l'écologie, la crise de conscience, elle est là depuis un moment. Enfin, il y a eu des mouvements de jeunes, voilà, Youth for Climate, il y a un peu moins d'un an maintenant. Mais je veux dire, la prise de conscience, elle est là. C'est juste les actions qui sont derrière qui ne suivent pas.
France Inter, Interclasse. Lycée Guy de Maupassant à Colombes.
Colombes, la plus grande cité pavillonnaire de la petite couronne au nord-ouest de la capitale, terrain privilégié pour les Parisiens qui veulent investir dans une maison avec jardin, mais où l'on note aussi de grands écarts de revenus. Je retrouve Nisrine et Maëlie, 17 ans toutes les deux, élèves au lycée Guy de Maupassant, pour qu'elles me présentent leur Colombes à elles. Point de départ, la rue Saint-Denis.
C'est une grande rue qui va tout droit, et de chaque côté, il y a des magasins.
C'est une rue importante dans Colombes?
Oui, c'est une rue très importante, surtout qu'elle mène à la gare en fait. Donc ça veut dire qu'il y a des heures où elle est vraiment bondée, où il y a plein de personnes qui vont de tous les côtés.
Je vois Sephora, Emma, c'est des endroits où vous allez beaucoup?
Oui, c'est des endroits où on va beaucoup, même si à chaque fois qu'on rentre à Sephora, le vigile il nous colle parce qu'il a peur qu'on vole des choses, alors que c'est jamais arrivé, enfin voilà, on n'est pas des gens comme ça.
Et du coup là, on est devant la MJC.
Il y a une grande place. Bah souvent les jeunes, enfin c'est là-bas qu'on se retrouve.
C'est l'espèce de cinéma-théâtre, là-bas où on va regarder des films quand on est en primaire ou au collège.
Même les soirs d'été, quand il fait vraiment chaud, il y a plein de personnes qui sortent là-bas. Et tout le monde s'assoit, comme c'était un grand salon. Et les gens s'assoient, les enfants ils jouent au ballon, à la trottinette. Tout le monde se connaît, tout le monde parle, mange, boit et tout. Et c'est vraiment bien. Là, bientôt, on va passer devant la boulangerie de mon père. Ça fait depuis des années qu'elle est là, la boulangerie. Tout le monde nous connaît grâce à ça. Surtout quand il y a des sorties, tout le monde vient ici prendre des sandwichs.
Ouais, c'est vrai en plus.
On est passé devant une pizzeria, c'est ça?
J'ose pas trop aller là-bas. J'essaie d'envoyer ma soeur ou quelqu'un d'autre parce que je me dis, oh là là, pitié, j'ai pas envie de passer. Déjà que j'habite dans une cité, je vois les jeunes tous les jours. Je me dis, si c'est pour les revoir encore une fois à la pizzeria, non merci.
Ouais,
quoi.
Parce que vraiment, ils se retrouvent tous là-bas, ils mangent, ils restent tous sur leur moto, là, comme ça, à parler, à vivre leur meilleure vie. Et nous, on n'ose même pas passer devant parce que bah, c'est toujours rempli.
En tant que jeune femme, est-ce qu'il y a des endroits de Colombes où vous n'osez pas aller?
Bon. J'habite dans ma cité, donc j'ai pas trop le choix de passer, mais en fait, il y a deux entrées dans ma cité. Du coup, j'essaie toujours de passer vers vraiment à côté de chez moi, parce que je sais qu'il y aura moins de monde. En fait, derrière chez moi, il y a un grand stade rouge, et il y a un petit parc et tout. Du coup, les jeunes sont tout le temps là-bas, et du coup, j'essaie au max d'éviter d'aller là-bas. Parce que j'aime pas passer devant eux, ça me stresse.
Donc là, on se rapproche vraiment du lycée.
Ouais. Bah, il y a le Carrefour Market aussi, où tous les lycéens... vont acheter des trucs à midi ou des trucs comme ça.
Quand tu avais des blocus, ils nous donnaient des bouteilles d'eau, tu te souviens?
Oui.
Avec ça nous lançait des flashballs et des gaz lacrymogènes.
Ouais,
en décembre, tous les ans pratiquement, il y a des blocus. Je sais pas pourquoi d'ailleurs.
Non, si cette année quand même, c'était pour les E3C.
Oui, mais l'année dernière, c'était pourquoi? Ah si, l'année dernière, c'était pour la réforme. Mais les années d'avant, c'était pourquoi?
Ouais, chaque année, en fait, il y a des blocus. Ça dure un mois, voire deux mois max. Et après, ça se calme. Et après, il y en a qui ont vraiment des vraies convictions.
Deux jeunes femmes avec des convictions. Alors que l'on arrive devant le lycée Guy de Maupassant après notre déambulation dans les rues de leur ville, une certaine nostalgie dans le regard devant les grandes grilles blanches et grises. Entre les blocus et le confinement, elles n'y ont pas passé beaucoup de temps cette année. Il faudra attendre septembre prochain pour l'entrée en première.
Aïe! Aïe! Pousse-toi! Allez, mets tes mains dans le dos!
Mets tes mains dans le dos!
Tes mains dans le
dos! Je veux pas! Mets tes mains dans le dos! Je veux tout!
Alors mets ta main,
on relâche. Mets ta main, l'autre main.
On enregistre aujourd'hui dans le lycée Guy de Maupassant à Colombes. C'est dans des conditions très particulières parce qu'effectivement, le lycée est vide, mais vous êtes venu quand même participer à cette émission, à cet enregistrement ici d'Interclasse. On a décidé de travailler sur les violences et nous, particulièrement sur les violences policières. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Autour de moi, donc, il y a Cindy, Landry, Amandine et Ethan. Vous êtes en quelle classe? Alors, on va commencer par Ethan.
Bonjour, moi, je suis en terminale ES. Voilà, donc moi, pareil, je suis en terminale ES.
Amandine, aussi, ouais.
C'est ça. Puis voilà, je suis en classe euro, donc en anglais renforcé du coup.
Landry.
Bonjour, je m'appelle Landry, j'ai 15 ans, je suis en seconde.
Moi, je m'appelle Cindy, je suis aussi en terminale ES en option sport.
Alors, on s'intéresse à la question des violences, hein, et notamment nous, ici, dans notre groupe, des violences policières. Et il se trouve que j'étais venu dans un atelier précédent, alors c'était, ça semble une éternité maintenant, hein, c'était au mois de décembre, c'était tout avant la crise sanitaire, avant le Covid-19 qui est apparu là, au mois de janvier-février. Et j'étais venu ici, mais il y avait, à ce moment-là, un mouvement social contre la réforme des retraites. Et il y avait des élèves qui bloquaient le lycée. Votre lycée était bloqué. Et devant le lycée, donc, j'ai enregistré ce qui était en train de se passer. Il y avait les forces de l'ordre qui étaient là. Et justement, à cette occasion-là, vous avez déjà, certains d'entre vous, été victimes de ce que vous appelez, de ce qu'on appelle des violences policières. Alors, on écoute.
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une interpellation très violente d'un élève qui est actuellement au commissariat, alors qu'il s'était déjà frappé hier devant le lycée et qu'il avait été déjà interpellé la semaine dernière. On était intervenu pour demander sa libération immédiate, il n'avait pas été placé en garde à vue. Et il y a aussi malheureusement une surveillante qui a été frappée, voilà, coup de matraque, gifle. Hein. Et donc évidemment c'est totalement inadmissible et nous on a demandé avec le syndicat enseignant que l'élève soit libéré immédiatement et aussi évidemment on a signalé les violences qu'ont subi des personnels.
Franchement, moi ce que je tolère pas, messieurs, ah c'est en train d'enregistrer là.
Ouais.
C'est pour quelle radio?
C'est Radio France.
Franchement, moi ce que je cautionne pas, c'est que le fait que mes camarades ils ont fait un blocus pacifiste et que les policiers ils sont intervenus. Il y a eu aucun débordement, aucune dégradation. Mais pourtant les policiers ils sont venus les frapper. Alors qu'ils étaient pacifistes, ils ont des revendications, ils ont le droit de manifester.
Alors quelles sont les revendications, alors, des étudiants, des élèves ici?
La plupart du temps ça va être les réformes du bac. Et aussi par rapport à Parcoursup qui est vraiment un handicap par rapport dans la zone à laquelle on est.
Alors, c'est quoi cette zone alors ici?
Ici on est au lycée Guy de Maupassant, c'est un des lycées qui est malheureusement le moins bien noté. Donc le fait que ce soit un des lycées les moins bien notés fait que dans la sélection Parcoursup, on sera forcément désavantagé.
Elle est belle la France.
C'est vrai, vous trouvez?
Oui, elle est très belle la France, liberté d'expression, on se fait gazon, coup de
vous
matraque.
Vous êtes fait gazer aujourd'hui?
Ah oui.
Ouais, en fait, leur but c'est vraiment de disperser les foules, mais sauf qu'ils le font directement. Là, au début, c'était devant la grille qu'on était, et pour dégager l'entrée par le garage, bah, ils ont gazé instantanément, ils ont même pas cherché à réfléchir. Franchement, ils auraient pu charger s'ils avaient pu, mais heureusement, là, il y a la grille verte qui protège, et les profs qui sont maintenant entre nous et les CRS, donc c'est sûrement
pour ça. Il y a les profs qui vous protègent, il y a vos profs qui vous protègent.
Actuellement, ouais, on a les profs qui permettent de séparer.
Là, si on n'a pas les profs devant nous, je pense qu'on se serait fait gazer et matraquer.
Ouais, mercredi dernier, il y a eu des grosses violences policières sans intérêt apparent.
C'est de l'abus de pouvoir, ce qui se passe sur nous.
Bon courage.
Merci également.
Voilà, c'était le 19 décembre 2019, hein, ça semble une éternité derrière nous. Et 6 mois plus tard, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé ici?
Le pire, c'est qu'on appelle ça des bavures. Une bavure, normalement, c'est quelque chose que tu fais pas intentionnellement. Sauf qu'aujourd'hui, on se demande si c'est pas fait exprès, si c'est pas fait dans le but de nous porter préjudice, si c'est pas des choses qui étaient planifiées à la base.
Enfin, il y a une question d'intimidation.
Alors on va écouter, si vous voulez bien, un témoignage qui avait été enregistré à chaud ce 19 décembre 2019.
Ça dégénère facilement avec la police, en sachant qu'il y a des gens, des garçons, etc., qui brûlent des poubelles, etc. Donc du coup, on a la police qui intervient directement, mais de façon très, très violente et très brutale. Donc ils tirent au flashball, ils gazent 500 élèves, alors qu'il y a 20 élèves qui foutent le bordel, les autres qui manifestent pacifiquement. Ils tirent au flashball, ils nous matraquent. On a des propos raciaux qui sont dits à notre égard, comme « casse-toi bamboula » ou « barrez-vous, j'ai pas envie de vous frapper, bande de sales arabes, vous êtes arabe, vous parlez pas français ». Enfin, on nous dit ça. Et ça, c'est des choses qui attisent la haine. Donc, on ne se sent pas forcément en sécurité devant le lycée. Surtout que des fois, ils ferment le lycée, donc on ne peut pas forcément rentrer. Et du coup, on a des parents qui viennent se plaindre à l'administration.
Ethan, tu veux réagir?
Elle a raison sur le fait qu'il y a des propos racistes à toute intervention policière.
Et vous pensez que ça va changer, ça, aujourd'hui, maintenant que ça a été dénoncé, que ça a été sorti au grand jour, quelque part, avec des reportages, effectivement? Vous pensez que les mentalités vont évoluer, ou alors que des sanctions vont être prises, quoi, tout simplement, quoi?
Moi, je pense, en fait, monsieur, qu'ils doivent tous avoir une caméra sur eux, comme un micro. Comme ça, quoi, ils interpellent quelqu'un, s'ils disent des propos racistes, ils se font... En fait, la caméra, elle sera reliée à leur centre.
Enfin, moi, j'ai pas l'impression que ce qui se passe en ce moment, ça va beaucoup changer. Après, c'est mon impression personnelle, mais...
Mais vous êtes inquiet, vous, si vous croisez la police dans votre quartier, ici, à Colombes ou ailleurs?
Toutes les fois où j'ai vu des interpellations, toutes les fois où j'ai été à des manifestations, il y a toujours eu des insultes de la part des policiers, des provocations, de l'intimidation. En gros, on a l'impression qu'ils font tout pour que ça parte en cacahuète. Oui, on a peur quand on marche dans la rue, qu'on voit des interpellations, etc. Parce qu'on sait que dans tous les cas, on sera perdant.
Moi, j'ai pas la même relation à la police parce que du coup, sûrement au fait que je vis dans un quartier résidentiel, je suis blanche, ça pareil. Mais enfin, la police, elle a quand même pas forcément une super image. En tout cas, la police de Colombes, enfin chez moi, on les appelle les cow-boys parce qu'on considère qu'ils font un peu leur loi. C'est des trucs tout cons, mais par exemple, la manière de conduire leur voiture, de se garer n'importe où, c'est des choses toutes bêtes. Mais tout le monde n'a pas un bon rapport avec la police, je pense.
On va écouter un témoignage.
Bah déjà, je vais commencer par dire qu'il faut arrêter de mettre la faute sur la police tout le temps. Je manifeste aussi. Mais les élèves, ils sont aussi très, très provocateurs. Aussi, la police, j'ai remarqué aussi qu'ils font beaucoup de bavures, qu'ils se prennent un peu trop pour des super-héros, si je peux dire ça comme ça, parce qu'ils croient qu'ils ont une armure, un truc comme ça, ils sont intouchables. Alors que non, faut savoir parler. Des fois, c'est des papas, des fois, c'est des mamans. Et ça peut être leurs enfants qui sont là, c'est ce que j'allais dire.
Alors, c'est la police qui provoque ou c'est les jeunes qui provoquent?
Moi, c'est la réaction aussi, par exemple, quand il y a des violences de la part de certains élèves, ça arrivait des fois devant le lycée qu'il y ait des poubelles qui soient brûlées. Pour moi, c'est la réaction face à ça qui est
disproportionnelle,
voilà,
c'est ça?
Moi, j'ai des amis qui en général viennent juste là pour aller au lycée, qui se retrouvent un peu prises dans le blocus parce que voilà, elles manifestent pas particulièrement. Et cette année, j'ai dû les retrouver plusieurs fois en train de pleurer, faire des crises d'angoisse parce que voilà, il y avait des gaz lacrymogènes, il y avait des mouvements de foule et elles étaient complètement paniquées de se retrouver là sans rien avoir demandé, quoi. Donc il y a pas que les gens. Quand il y a une réponse de la police, malheureusement, il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas impliqués, qui en subissent les conséquences.
Ce jour-là, j'étais présente et j'ai tenté de filmer. Je suis en train de filmer la scène et le policier est venu me voir. Il m'a fait « Ouais, arrête de filmer, bouge de là, sinon je vais t'embarquer, je vais te gazer comme les autres. » Et moi, j'ai tenté de me réfugier dans le lycée. Et pendant qu'on passait, ils se sont mis sur les côtés. Et nous, on était au centre de la route. Et ils nous ont frappés avec la matraque, là. Ils nous ont frappés les filles, ils les ont frappés sur les pieds et dans les côtes, genre pour qu'on tombe par terre. Et les garçons, ils ont commencé à les frapper sur la tête et tout. Et vu que, bref, ils avaient des cheveux là et des dégradés derrière, ils les frappaient sur la nuque et tout. Pour vraiment qu'ils ont mal, quoi. Et pour qu'ils tombent par terre, pour qu'après, ça soit plus facile pour eux de les attraper. Et ils ont commencé à nous gazer et tout, on n'arrivait plus à respirer et tout. Et quand ma copine est partie voir un CRS et elle lui a dit « Ouais, vous pouvez arrêter de nous gazer et tout, il y a des personnes qui sont asthmatiques et tout, ils n'arrivent plus à respirer », il lui a dit « Ferme ta gueule, sale pute » et tout. Et bref, on s'est senti mal et tout. Et puis moi, je suis partie me réfugier dans le lycée, j'arrivais plus à rien voir, je voyais plus rien, j'arrivais plus à respirer. Bref, j'étais pas bien.
Voilà, un dernier témoignage, hein, c'était donc le 19 décembre, à l'atelier donc interclasse qu'on avait mené ici, avec les quelques élèves qui avaient pu rentrer ou voulu rentrer dans le lycée pendant ces blocages, pendant le mouvement social contre la réforme des retraites.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs Hermès. Vous n'avez jamais connu la précarité, vous vivez à l'écart de nos réalités. La rue le pense, je le mets en musique. Et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos programmes électoraux ne sont que des comptines. On prend les mêmes et on recommence. Les mêmes promesses, les mêmes mensonges. Les mêmes tapes dans la caisse, les mêmes plonges. Les mêmes sons dans la hesse. Les mêmes manges, les mêmes menteurs, trafiquent les mêmes comptes, les mêmes commis au service des mêmes pontes. Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés, les mêmes fils de riches sont formés pour régner. En attendant qu'un homme du peuple émerge, c'est rare de trouver un élu avec un casier vierge. Ma haine du système est toujours intacte, lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac? Claude Guéant, Balkany, Jean-François Copé, Philippe Bernard, Harlem Désir, Alain Juppé. Tous ceux que j'ai cités ont-ils été condamnés? Ce sont les mecs de cité qui me traitent comme des damnés. Vous étiez choqués par le groupe Tandem, vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule, comme la Grèce ou l'Italie, vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie. Cumule des mandats jusqu'où vous irez? Est-ce le cumul des salaires que vous désirez? Comme toute la France d'en bas, je crois plus aux politiciens. Je continue le combat, je crois au réveil citoyen. Pour changer les choses, il faut le vouloir. Vous n'avez pas de cause profonde si ce n'est le pouvoir. Vous faites de la politique sans conviction. Parfois vous en faites même pour éviter la prison. En costume cravate sont les vrais voyous. Vous ne croyez plus à rien, plus personne croit en vous. Y'a qu'à observer les taux d'abstention. Faut pas trop prendre les gens pour des cons, attention. Sentez-vous le vent tourner comme vos vestes. Entre vous et la rue, y'a plus que les CRS. À bout de souffle, votre système est dans un cul-de-sac. À essayer de se débattre comme un cul-de-chat. Vous êtes élu pour un truc, vous ne le faites pas plus. Vous faites l'inverse, en plus ça ne vous gêne pas. Et si le peuple a l'idée de se rebeller, vous disposez d'une armée de flics bien dressée et scellée. Le dialogue social gît dans un cercueil. Les keufs tirent au flashball, tu peux y perdre un œil. Vous faites monter le sentiment anti-policier. Usez de la police comme d'une armée privatisée. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vous êtes complètement soumis à la finance. Vous votez les lois que les riches ordonnent. Après le 49-3, plus rien ne m'étonne. On travaille plus mais on gagne moins. On attend juste le printemps européen. On cotise pour des retraites qu'on ne verra peut-être jamais. Tout l'argent qu'on fait rentrer, vous nous le reprenez. Chaque fin du mois à découvert. On a l'impression d'être esclave du système bancaire. Les plus riches connaissent le jeu, jouissent de niches fiscales. Les petites PME croulent sous les charges sociales. Radar, on paye, péage, on paye, pollution, on paye. Oh, qu'est-ce que vous faites avec tout ce fric? Que foutez Eric Zemmour sur une chaîne publique? Payez pour propager sa haine, semer des graines récoltées par le FN. Pour vous-même, Marine Le Pen est devenue fréquentable. Quiconque combat l'islam peut s'asseoir à votre table. Incapable de gouverner, vous divisez. Incapable de rassembler, vous stigmatisez. Aveuglé par le pouvoir, vos cœurs sont voilés. Beaucoup plus que le visage de cette femme voilée. Tous vos prétendus principes de laïcité ne concernent pas cette Saoudienne sur les Champs-Élysées. Pour vous tous, négocie, tout est question de joie. Vous êtes même prêts à livrer des banlieues au Qatar. Votre jeu est trouble. Votre discours est double. Au pays dit des droits de l'homme. L'état d'urgence est devenu la norme. Et vous prétendez faire la leçon au monde entier. Imposer la démocratie à coups de mortier. Sans pitié, vous avez buté Kadhafi. Aujourd'hui, dans quel état se retrouve la Libye? La roue le sait, je le mets en musique. Vos médias le taisent, je le rends public. Je vous tiens tête comme un mec des minguettes. Est-ce le genre de texte qui peut me valoir une fiche S? Droit dans mes bottes, je ne baisse jamais mon froc, la tête haute, je suis intègre. Je fais du hip-hop, vous appelez ça de la musique nègre. Genre en indé, tu me verras plus jamais mettre les pieds à Skyrock. Ils n'aiment pas ce que je suis, ce que je défends, ce que je porte, c'est réciproque. Ils ont travesti le RAP, je fais partie des rescapés. Ils ont encensé la médiocrité, ils ont fait du hip-hop de la variété. Ils ont joué les clashs pour nous diviser. Tant que ça fait de l'audience, on peut s'allumer. Quand un rappeur se fera buter, ils organiseront un concert au nom de la paix. Yeah, je fais de la musique contestataire. Vous vendez des espaces publicitaires. Je me suis sacrifié pour mes petits frères. Vous vous jouez des trucs qui les envoient au cimetière. Fric et violence dans vos playlists. Vous abrutissez les miens, ça plaît aux élites. Vous vous êtes servi de moi, je me suis servi de vous. Pour que mon message passe au plus grand nombre, maintenant je peux le faire sans vous. J'ai un public qui me soutient. J'ai fait des choses, le peuple s'en souvient. La rue vous vomit, je le rends public. Rien n'a changé depuis l'être à la République.
Ok, d'accord, tu veux charger les Noirs et les Arabes, c'est ça?
Au revoir.
Ok, d'accord. Bon, déjà, je t'ai dit que les Noirs et les Arabes, on est pareil, mais on vous bat sur plein de trucs quand même.
Ah bon?
Déjà, la musique, on vous bat, frère.
Hey, Seigneur.
On a le rail!
Oui!
Tout le monde connaît le rail, tout le monde aime le rail.
Yeah, attends.
Non, attends,
ferme ta gorge, ferme ton œsophage.
Qu'est-ce qu'il y a?
Non, le rail.
Oui! Tout le monde aime le rail, vous êtes les premiers à danser dans nos mariages. Pourquoi, pourquoi frère?
Parce que
dès
c'est
qu'il y a de la musique, on voit des Renault qui font.
Non, non, non.
Ah oui, frère.
On mange gratuitement là-bas. Pourquoi tu veux pas qu'on aille?
Bonjour, je m'appelle Maëlie, j'ai 17 ans.
Bonjour, je m'appelle Landry, j'ai 15 ans.
Bonjour, je m'appelle Ijou, j'ai 16 ans. J'ai travaillé avec France Inter sur les limites de l'humour, jusque peut-on rire. Alors, on a interviewé Othman et Calvin. Ce sont des humoristes qui sont connus par les réseaux sociaux, notamment Instagram et YouTube.
Calvin et moi, quand on écrit certains sketchs ou qu'on répète certains trucs, des fois on se lance des vannes et on dit non, non, ça par exemple, c'est pas la peine.
On s'auto-censure.
Voilà, on s'auto-censure nous-mêmes, on essaye en tout cas.
Si vous n'étiez pas noir et arabe, est-ce que vous auriez quand même rire aussi ouvertement de la culture noire ou arabe et des clichés qui existent sur les cultures?
Moi personnellement, je pense pas. pour rigoler d'un sujet, ouais, il faut savoir le maîtriser. Et je pense que si on n'avait pas été ni musulman, ni noir, ni arabe, nous connaissant, en tout cas, je pense pas qu'on aurait été sur ce sujet-là.
Et c'est notre histoire.
Si on n'a pas une maîtrise bien précise du sujet, c'est compliqué d'en parler.
Est-ce que vous pensez que l'humour peut avoir des limites? C'est en fonction des personnes.
Voilà.
Par exemple, un gars comme Dieudonné, il a eu des limites, mais c'est les limites de la loi.
Ces limites-là, à l'échelle de la loi, vous ne les connaissiez pas. Et pour ça, vous avez interviewé donc Maître Basile Adair, qui vous a expliqué comment ça se passait au niveau de la loi. Donc je vous propose de l'écouter.
Les règles s'agissant de ce qui m'apparaît à moi comme les principales limites du droit à l'humour, c'est-à-dire le fait d'injurier quelqu'un, d'avoir à son égard un message discriminatoire, hein, qui peut être raciste, homophobe, sexiste, lié au handicap, hein, c'est les quatre domaines dans lesquels l'expression d'un message est punissable. Et là, le juge, parce que c'est le juge qui tranche dans ces cas-là, doit faire le partage entre ce qui est effectivement raciste, homophobe, etc., et ce qui ne peut être pris qu'au second degré. C'est-à-dire qu'il n'est pas porteur d'un message illégal. Encore faut-il qu'il soit nécessairement compris comme un message du second degré. Le juge a tout de suite dit qu'il n'était pas le juge du bon goût. Et ce n'est pas parce que le juge rit ou ne rit pas qu'il va dire c'est de l'humour ou c'est pas de l'humour. Ce serait ça, par contre, trop subjectif. Il ne juge pas à l'aune de sa propre séduction au message humoristique. Il doit simplement constater que c'est un message de nature humoristique. Et quelquefois, il peut être heurté par la grossièreté de certains messages, mais il dit « ça reste de l'humour et donc je le protège ».
Vous, qu'est-ce qui vous fait rire ?
En grandissant, les humoristes qui étaient les plus connus, c'était des humoristes comme Gad Elmaleh, Jamel Debbouze. En fait, les blagues qui me faisaient plus rire, la plupart d'entre eux, c'était des blagues sur les personnes racisées, etc. Mais maintenant, je le vois d'une manière différente. C'est un humour qui est un peu malsain de se moquer des handicaps des personnes qui nous entourent pour faire rire des personnes qui ne sont pas concernées par ça. Et aujourd'hui, les personnes qui me font rire, c'est des humoristes comme Fary ou des humoristes comme Fadili Camara qui n'utilisent pas le fait d'être racisé pour amuser la galerie et qui parlent de choses qui concernent tout le monde, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ton origine, etc. Ouais, voilà, quoi.
Chaque vendredi soir, des centaines de jeunes se défoulent sur deux roues. Et le danger, c'est parfois la mort.
Je donnerais tout pour avoir un appart comme ça avec personne qui me fasse chier. Si tu viens me chercher et que tu m'amènes au circuit, je te laisse un double des clés.
Allez, cours !
Où t'étais, connasse ?
Et Jérôme, alors ?
Bah, Jérôme, on a couché ensemble.
J'ai même pas vu sa bite.
Tu sous ma gueule ? Tu vas plus au lycée, pourquoi ? Tu crois qu'il t'aime, ces mecs ? Si t'y vas, tu passeras pour une grosse salope.
On sort tout ce que t'as piqué.
Et si ta mère, elle te voyait, qu'est-ce qu'elle dirait ?
Justement, c'est pratique. Elle ne me voit pas.
La bande-annonce de Belle Épine, un film de Rebecca Zlotowski.
France Inter, Interclasse.
Bonjour Rebecca, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du cinéma ?
C'était un mélange de fascination pour les films qui me permettaient de me sentir moins seule quand j'étais de l'enfance à l'adolescence et puis après au début de ma vie adulte, et une espèce de resserrement de mes compétences au bout d'un moment. Je voyais que je pouvais plus devenir médecin, docteur, ingénieur, et au fur et à mesure, je suis arrivée dans la littérature avec le désir de l'enseigner, et je me suis dit, j'adore la littérature, j'adore le cinéma, je vais commencer par écrire des films et ensuite peut-être en réaliser.
Comment et pourquoi militez-vous ?
Alors, je ne sais pas si je dirais que je suis une militante, je dirais que je suis engagée, parce que dans le militantisme, il y a une part, politicienne, qui n'est pas de mon côté, moi je reste une cinéaste, mais j'ai deux associations qui me tiennent à cœur. La première, c'est celle des réalisateurs, la SRF, qui réunit des réalisateurs pour se battre pour le cinéma indépendant, pour faire en sorte que les petits films, les films qui ont le désir d'être pas forcément commerciaux, puissent exister, puissent être regardés, ça c'est important. Et la deuxième association, c'est 50-50, c'est une association paritaire, qui lutte pour qu'il y ait moins d'inégalités entre les hommes et les femmes en termes de salaire, en termes de représentation du pouvoir, en termes d'accession aux postes clés. Donc voilà, c'est ces deux associations, c'est un peu une main gauche et une main droite. D'un côté, un monde qu'il faut défendre encore, le monde des réalisateurs de films dans lequel, avec le CNC, la possibilité d'obtenir des budgets, même quand notre film ne va pas être forcément très commercial. En gros, donc, consolider un monde d'avant qui ne doit pas se retrouver bousculé par les plateformes, bousculé par le libéralisme d'un monde moderne. Et d'un autre côté, un monde qui fait bouger un petit peu les lignes, et ça, c'est 50-50, avec des représentations et des stéréotypes qu'on doit changer.
Le fait qu'on vous dise que votre travail est réservé aux hommes, ajoute-t-il une pression supplémentaire ?
Moi, je dirais plutôt une excitation qu'une pression. Et je vais répondre de deux manières. Premièrement, je pense que ça fait quelque temps qu'on ne nous dit plus, quand on réalise des films, que c'est réservé aux hommes. En revanche, il y a des genres de films qui sont encore réservés aux hommes. Et je pense précisément au cinéma de genre. Le cinéma d'horreur, le cinéma thriller, le cinéma politique. Et quand j'ai réalisé Les Sauvages, je sentais que, parfois pour me faire plaisir, on me disait « on a l'impression que c'est réalisé par un homme ». Ce qui était surprenant et un peu médiéval comme manière de voir les choses. On n'est pas des pionnières, parce que évidemment, moi, je me vis pas comme une pionnière. Il y a énormément de réalisateurs femmes qui ont fait des films d'ailleurs merveilleux depuis 60-70 années. Je veux dire, on est loin d'être la première génération. Mais il reste encore toute une histoire à construire et une histoire à raconter, y compris du côté du patrimoine, hein. Donc dans les cinémathèques, dans les rétrospectives. Et donc ça donne plutôt de l'énergie, ça donne plutôt l'impression qu'on est des aventurières et qu'on a encore un grand terrain à défricher. Ça me donne plutôt la pêche, moi.
À quelle sorte de violence avez-vous été confrontée dans votre métier ?
Question très intéressante, Sherazade. C'est compliqué de répondre parce que faudrait savoir ce que tu entends par violence. Il y a un combat symbolique très fort dans nos métiers, qui sont des métiers de rivalité, de compétition. Moi, je le vois plutôt comme quelque chose de lumineux, c'est-à-dire faut faire triompher son idée de la vérité. Mais pour ça, il faut obtenir des financements. Les financements sont précieux, ils sont convoités par beaucoup, et il y a forcément de la rivalité, de la compétition là-dedans pour qu'un projet existe. Donc ça, c'est une première violence qu'on peut subir et qu'on peut aussi infliger à d'autres. Il y a la compétition dans les festivals, parce que la visibilité de certains films, en tous les cas de mon cinéma d'auteur, elle passe par les festivals. Donc il y a des attentes très fortes, il y a des cœurs qui palpitent très fort. Ensuite, il y a la violence de la sortie du film, où on peut faire un flop absolu, on peut aussi gagner. Ça, c'est très difficile parce qu'on est à la merci de beaucoup de paramètres qu'on ne peut pas maîtriser.
Pensez-vous que les violences physiques sont plus graves que les violences psychologiques ?
Je pense que les violences physiques et morales sont des blessures qui laissent des cicatrices aussi profondes. Ça dépend absolument de l'agression. Voilà, je sais que des choses que j'ai lues m'ont fait plus de mal que des débuts d'engueulade sur un plateau avec des gens autour de moi, évidemment. La violence, en fait, elle est sous toutes ses formes. Il y en a une qui est intolérable, en tous les cas, et qui est criminelle immédiatement, c'est la violence physique. Ça, elle n'a pas de place, en tous les cas, sur mon plateau, ni dans ma vie. Si on parle de violence et de violence associée à une industrie, c'est une violence qui est toujours plus grande envers certaines catégories de personnes. Elle est toujours plus évidente envers les Noirs, envers les Arabes, envers les femmes, envers les homosexuels, envers les personnes qui changent de sexe. Donc il y a une espèce de fil global, hein, qui fait que les violences, elles sont plus fortes à l'encontre de ces minorités-là. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment toujours très vigilant et que notre industrie, elle peut changer les choses parce qu'elle peut en changer les représentations. Et c'est très long à changer. Un système, quand il est inégal, il est long à modifier. Il est long à changer parce qu'il faudrait en passer par des dispositions radicales, type les quotas et donc un peu de discrimination positive. Ça, c'est le modèle américain. Mais c'est un modèle qui marche pas en France, qui est difficile à installer et qui est peut-être pas forcément souhaitable à installer. Donc, il y a autre chose qui est du côté plutôt de l'incitation. Et donc, de trouver des systèmes pour qu'on se dise, bon, voilà, on va avoir plus de chefs de poste femmes qui vont arriver au pouvoir. On peut donner des bonus en termes d'argent. C'est ce qui existe déjà et ça marche. Donc là, il y a de plus en plus de films qui sont aidés, bon, avant la crise du Covid, hein, qui sont aidés avec ce dispositif-là. Et sinon, il y a un désir aussi de se dire comment on va faire pour contourner les statistiques ethniques, parce qu'on va se dire on veut avoir des chefs de poste qui sont plus divers et qui sont plus inclusifs. Mais bon, on n'a pas non plus un annuaire avec tous les chefs de poste qui sont discriminés, qui sont noirs ou arabes. Et donc, c'est très difficile. Donc là, il y a d'autres systèmes aussi, comme ce qui était préconisé, c'est-à-dire une sorte de bible avec un recensement personnel. Chacun décide de s'y inscrire en disant, voilà, je crois que je suis victime d'une discrimination et je mets mon talent sur la place pour qu'on puisse être embauché. Et ça, c'est vrai que c'est en train de circuler et de fonctionner aussi de mieux en mieux. Et entre-temps, moi, j'ai quand même vu le succès d'un film comme celui de Ladjili au César. J'ai quand même vu le César de Roche Dizem. J'ai quand même vu le César de Mounia Medour pour Papicha. Le film aussi de Céline Sciamma, qui avait été beaucoup nommé, qui est un film avec quasiment que des chefs de poste féminins. Donc en fait, tous ces films-là me donnaient l'impression qu'il y avait une sorte de direction plus ouverte et qu'elle était reconnue et en termes d'entrée et en termes de reconnaissance et de récompense dans notre industrie. Et ça, je trouve que c'est un super signe.
Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría.
Tiki, tiki, tiki.
Ni un amigo nuevo, ni una haría.
Ni un amigo nuevo, ni una haría. Zoom en la cara, Gaspar Noé. Tono dispara, la vacía. Vivía, vivía, Dolce Vita. Mi mandita duro, dinamita. Tatúa de pie hasta la nuca. Vestía de negro como Kika. Vivía, vivía, Dolce Vita. Mi mandita duro, dinamita.
Leche con azúcar. Ella tiene medida brazuca. Esa mami es una G.
She got hips, I got a grip for a lot of ass. Don't need to have more. I know it's sweet, I like that.
Straight up.
I got word that is wet, well, let's drown. Toot it up, back it up, slap it down. Don't say a word of what you heard from when I came around. You get it fresh, you get this work right when you come in town. Need you right here. Know you the queen of giving ideas. Know my new friends don't bring the hype here. Know you got problems, but it's not fair.
Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar.
Más te vale no romper la muerta.
Tiki, 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 tiki.
Ni un amigo nuevo, ni una haría.
France Inter, Interclasse, lycée Guy de Maupassant à Colombes.
Toute la classe en avait choisi la violence comme thème général et on le décline dans les stades de football.
Moi je m'appelle Marco, j'ai été membre actif d'un groupe de supporters ultra qui s'appelle les Indians de Tolosa. Puis j'ai intégré également l'Association Nationale des Supporters dont je suis devenu le porte-parole en septembre dernier.
Pourquoi cette violence existe-t-il chez les supporters? Pourquoi est-ce qu'il y a de la haine entre les clubs?
C'est un petit peu comme des gangs, et il y a ce qu'on appelle notamment la bâche, qui est le morceau de tissu qui est déployé devant la tribune de ce groupe-là. C'est un petit peu la carte d'identité du groupe. Mais la plupart des supporters de foot, je dirais 95 voire 98% des supporters de foot, ne cherchent pas du tout la violence en allant voir un match, bien au contraire.
Bonjour, je m'appelle Reda. Pensez-vous que les diffuseurs et les sponsors ont une responsabilité dans ces violences?
Oui, dans les années 90, en France, le diffuseur c'était Canal+, et Canal+ a véritablement soufflé sur les braises, effectivement, en faisant monter cette rivalité entre Paris et Marseille. Aujourd'hui, on voit que c'est devenu le classico, alors qu'à la base, les groupes de supporters ne se détestaient pas forcément. C'était deux clubs qui étaient très importants pour le français. Et en fait, le fait qu'il y ait d'un côté Canal+, qui avait dit Paris Saint-Germain, et de l'autre, il y avait un président comme Bernard Tapie. En fait, ce qui s'est passé, c'est pour engendrer un peu une rivalité qui donnait au match quelque chose bien plus important que du football. Et les médias ont soufflé sur les braises. Et ça a été un petit peu pareil avec Saint-Etienne et Lyon dans les années 2000. Il y avait beaucoup d'animosité entre les tribunes. Et en fait, du coup, j'ai vraiment cette impression que dans le football, c'est exacerbé. Le moindre débordement va être monté en épingle.
Parce que quand il y a dans les petits clubs ou là où les jeunes font du football, il n'y a pas de violence.
Si.
Dans les petits clubs de quartier, oui, il y a des violences parce que il y a des clubs qui se retrouvent dans des quartiers populaires. Dans leur manière de supporter, il y aura de la provocation, il y aura des insultes, essayer de déstabiliser les joueurs qui sont sur le terrain, etc. Ça crée des tensions et ça amène de la violence.
On se retrouve dans un instant avec l'équipe d'Interclasse. Mais avant, nous allons écouter Madame la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, interrogée par Louis, Jacques Jean, Oussama, Pavan et Reda.
Bonjour Madame la ministre, je m'appelle Oussama Ajour. Pourquoi y a-t-il toujours des violences dans le milieu sportif?
Il n'y a pas de violence particulièrement dans le sport. Je crois qu'il y en a dans la société et le sport doit prendre sa part de cette violence, alors que dans des stades plus particulièrement, quand il y a deux équipes qui se rencontrent soutenues par leur groupe de supporters, forcément il y a un sentiment d'appartenance qui rentre en ligne de compte. Il y a de la passion, il y a parfois un excès de passion qui fait que les gens vont jusqu'à se bagarrer. Mais le sport, ce n'est pas que ça. C'est aussi du sport qu'on pratique dans l'effort. On peut aussi faire ressortir parfois la colère, l'injustice qu'on peut avoir en soi, qu'on peut ressentir dans un effort sportif. C'est le sport au quotidien, tous les jours, qui fait aussi plaisir, qui fait du bien au corps et à la tête. Et c'est plutôt cette partie-là que je préfère moins retenir du sport.
Est-ce que l'interdit de l'alcool a changé quelque chose ? Par exemple, dans les stades ?
Le fait que la loi Evin ait interdit la consommation d'alcool dans les stades lors de grands événements sportifs et aussi la publicité pour l'alcool et le tabac, c'est effectivement ce qui a pu permettre aussi de diminuer ces violences qui sont parfois allées jusqu'au décès, à la mort de certaines personnes, de certains supporters. Mais cette loi, elle a aussi un autre rôle, c'est qu'on arrive à ne pas mélanger finalement les belles valeurs du sport, un sport bon pour le psychisme, bon pour la santé, avec des produits qui vont amener une dépendance physique et qui vont être, eux, mauvais pour la santé. C'est tout l'intérêt aussi de cette loi, de pouvoir préserver le sport et l'intégrité de ceux qui le pratiquent.
Bonjour, je m'appelle Reda El Ossi. Nous voulons parler dans notre reportage des violences entre supporters. Pourquoi cette violence existe-t-elle chez les supporters ?
Elles viennent des phénomènes de groupe qu'on a expliqué tout à l'heure, mais il n'y a pas que les violences physiques, il y a aussi les violences verbales. Et je me suis positionnée en tant que ministre au moment de mon arrivée, lorsque j'étais dans un stade de football entre deux équipes bien connues et que j'ai entendu les mots qu'il y avait dans des chants de supporters qui m'ont fait mal aux oreilles parce que c'était des mots homophobes dans une société où aujourd'hui, heureusement, on accepte la sexualité de toutes les personnes et on ne doit pas stigmatiser les uns et les autres par rapport à justement leur sexualité. Et c'est vrai que dans ces chants, sans pour autant que les supporters évidemment soient eux-mêmes homophobes, il y a des mots qui passe à la télé, qu'on entend lorsqu'on vient avec ses enfants au stade et qu'on ne doit plus entendre dans les stades parce que si ces mots-là sont mis ailleurs dans un autre contexte, ils ne sont pas acceptables. Et si elles ne sont pas acceptables en dehors du stade, ils ne peuvent pas être acceptés dans le stade non plus.
Je suis la Kerjane. Je voudrais savoir si le Parc des Princes fait appel à des sociétés de sécurité et d'autres endroits qui accueillent des manifestations sportives.
Tous les organisateurs d'événements sportifs, que ce soit un match de foot ou toute autre compétition à l'extérieur d'un stade, doivent faire appel à des forces de l'ordre qui viennent encadrer le public qui est présent. Donc le ministère des Sports travaille main dans la main avec le ministère de l'Intérieur pour cela, et aussi avec les organisateurs de l'événement qui mettent parfois à disposition de la sécurité privée, qui viennent de sociétés de sécurité privées. Et c'est aussi grâce à cette collaboration qu'on a réussi à travailler avec le ministère de l'Intérieur sur le déplacement des supporters, parce que moi je trouve que c'est important que les groupes de supporters puissent suivre leur équipe de cœur lorsque celle-ci se déplace à l'extérieur. Et donc on a travaillé avec le secrétaire d'État Laurent Nunez sur la thématique du déplacement des supporters, et aujourd'hui on a facilité plus qu'avant le déplacement de ces personnes.
Bonjour, je suis Louis, c'est notre dernière question. À votre avis, est-ce que la violence peut disparaître du milieu sportif ou est-ce que cela en fait partie ?
Non, la violence provient pas du sport, elle est dans la société et dans un stade de sport ou dans une compétition sportive, comme c'est le sentiment d'appartenance qui est en jeu, parfois c'est un exutoire de cette passion qu'on a en nous. Mais on doit se dominer quand on va avoir un spectacle sportif, bien évidemment. Et mon rôle, c'est de lutter contre toutes les formes de violence qu'il peut y avoir dans le sport, des discriminations, mais aussi des dérives qui peuvent être très graves, comme les violences sexuelles dans le sport ou ailleurs dans la société, et que le sport peut permettre de détecter.
Les violences, le thème générique choisi par les élèves du lycée Guy de Maupassant à Colombes avec un vif intérêt porté aux violences conjugales.
On a interviewé Pauline, elle a 31 ans, elle vit à Marseille. Elle a été victime de violences conjugales pendant 10 ans. Elle a sorti deux musiques, Soleil Noir et Bisous.
Vous avez parlé avec elle pendant plus de 40 minutes, c'était très émouvant. Et là, on propose d'écouter un extrait, c'est ça ?
Oui, on écoute.
Finalement, je ne comprenais pas ce qui se passait, donc j'étais même pas en capacité de m'adresser à qui que ce soit pour demander de l'aide. Pour prendre conscience des choses, déjà, c'est la première étape. Et tant qu'on n'en a pas pris conscience, on ne peut pas demander de l'aide, en fait. On a un seuil de tolérance qui augmente avec le temps. Donc, pour s'en défaire, c'est très compliqué. On est dans un état de stress permanent, c'est-à-dire qu'on est toujours sur le qui-vive, sur ce qui va se passer potentiellement, parce qu'en fait, la personne en face de nous est capable de changer d'état d'un moment à l'autre de façon très rapide sans qu'on ait le temps de réellement comprendre ce qui se passe. Donc des fois c'est des fractions de secondes, enfin voilà, on est toujours sur le qui-vive de ce qui va se passer. Et du coup, ça fait partie de nous, en fait, je pense, à ce moment-là. La peur, pour moi, elle était complètement intégrée dans mon système.
Comment vous êtes-vous reconstruite après ?
Il faut se faire aider, psychologiquement. Je pense que ça passe aussi par le sport, effectivement. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est aussi passé par le sport. C'est pas anodin, parce que j'ai choisi la pole dance, qui est un sport qui permet vraiment de se réapproprier sa féminité, de sa force, parce que c'est aussi très physique, de se surpasser. Voilà, c'est un vrai challenge.
Le fait d'avoir écrit un livre et deux chansons sur ce que vous avez vécu, est-ce que ça vous a aidé en quelque sorte à vous en sortir un peu comme une thérapie ?
Ah oui, complètement. Le dire avec la voix, avec les mots, avec sa propre voix, c'est s'autoriser à parler, s'autoriser à être soi-même. C'est hyper dur quand on s'est interdit de dire des choses pendant des années. Et je pense aussi, effectivement, le travail comme la Maison des Femmes, les associations qui font un travail incroyable.
J'ai trop souvent caché mes larmes au lieu de te montrer mes armes. Tu étais mon pilier, mon repère, la lame bien aiguisée de mots bleus. Je me suis perdue dans les méandres de tes obsessions. J'étais devenue ton ombre et absente dans ma propre maison. J'étais ton essence, ton carburant, je t'ai laissé prendre mon âme. Je me suis abandonnée comme une carrosserie dans un terrain vague. Tu étais le soleil noir de mes nuits qui m'enveloppait. Soleil noir de ma vie.
Pour parler de ce sujet, nous avons décidé d'interviewer le docteur Gilles Lazimi, qui est un spécialiste dans les violences conjugales, donc toutes les violences qui sont faites aux femmes.
Et en plus, c'était un peu stressant parce que t'as fait l'interview toute seule.
Un petit peu au début, mais après, ça a été.
Bon, on l'écoute ?
Oui.
Il faut savoir que quand on est victime de violence, l'homme qu'on aime, qu'on a choisi, ça met un petit peu de temps. Il n'est pas toujours violent, il est gentil, il est aimant, et puis c'est celui qu'on a choisi. Donc ça met un certain temps à comprendre les violences.
Est-ce qu'on sait pourquoi un homme lève la main sur sa femme ?
Ces hommes sont violents avec ces femmes parce qu'ils ont appris la violence. Et ils l'ont appris dans un lieu, le premier lieu d'apprentissage des violences, c'est-à-dire la maison, la famille. Ils ont été témoins, ils ont été victimes. En tous les cas, ils ont appris la violence en voyant souvent des personnes de leur famille être violents avec leur femme, avec leur sœur. Et c'est ainsi qu'ils vont reproduire. Ces hommes violents ont un besoin de dominer, un besoin de rendre l'autre objet. Et c'est ainsi qu'ils vont humilier, frapper, asservir parfois, transformer leur femme en objet. Ce sont des crimes, des délits, punis par la loi. Il faut que la loi soit appliquée afin que ces violences cessent définitivement et que aucun enfant ne puisse assister à ces violences et puisse, quand il sera grand, les reproduire. La loi, elle est fondamentale. Et depuis 20 ans, on a édicté de très nombreuses lois et la société change et ne tolère plus les violences. Donc on a des lois, on a des dispositifs de protection, mais beaucoup de femmes ne les connaissent pas. Et puis, malheureusement, alors qu'on a des lois, toutes les femmes ne sont pas accueillies dans les commissariats comme elles le devraient. Les juges n'appliquent pas forcément ces lois. Et on considère souvent l'homme violent comme un primo-délinquant et il n'a souvent pas de peine de prison comme il devrait. Donc il est important de faire en sorte que les lois soient appliquées et il faut réellement bien écouter la victime, la croire, ne pas la remettre en question et faire en sorte que ces lois soient véritablement appliquées, que les femmes soient protégées dès l'instant où elles portent plainte. On a fait des rapports et en 2018, un rapport du ministère de la Justice a analysé 88 féminicides, cas de femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint parce qu'elles étaient femmes. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que dans 80% des cas, les plaintes qui avaient été déposées elles avaient été classées sans suite. Ça veut dire qu'on n'avait pas donné suite à ces plaintes, que 65% de ces femmes étaient connues de la police et on n'avait pas protégé ces femmes. Donc là, on a vraiment beaucoup de travail à faire pour faire en sorte que systématiquement, à chaque fois qu'une femme va porter plainte, il faut qu'elle soit protégée et qu'une ordonnance de protection soit mise en place. Et si on a connaissance des violences, il faut intervenir, il faut appeler le 15 et il faut aussi se rapprocher de la victime pour lui donner des téléphones, le 3919 par exemple, qui peut lui donner des associations. Et on sait très bien que ces femmes qui sortent des violences, ce sont des femmes qui ont été aidées par l'environnement et par les autres. Thank you.
Alors on parle beaucoup du monde d'après, du monde d'après la crise qui va changer. Vous aimeriez quoi, vous? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous aimeriez qui change ou qui redevienne pas comme avant, quoi?
Moi, j'ai du mal à voir comment est-ce que la crise peut amener une crise de conscience. Enfin, par exemple, vous parlez de l'écologie, la crise de conscience, elle est là depuis un moment. Enfin, il y a eu des mouvements de jeunes, voilà, Youth for Climate, il y a un peu moins d'un an maintenant. Mais je veux dire, la prise de conscience, elle est là. C'est juste les actions qui sont derrière qui suivent pas. Et pour moi, c'est pas dû à la crise. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que la crise amènerait des actions derrière.
Depuis des années, ça manifeste pour plusieurs causes. Mais l'État, ils font les sourds, on va dire. Et j'aimerais que ça change, en fait.
Comment vous aimeriez, vous, le monde d'après, alors changer le monde dans lequel vous voulez vivre?
Un monde en paix.
Un monde où on serait libre d'être ou de faire ce qu'on veut sans qu'il y ait d'obstacles qui se présentent à ça.
Ça a l'air tout bête, dit comme ça, demander de l'égalité, de la justice ou de la paix, mais personnellement, j'arrive pas à le voir arriver, ce monde, quoi. Donc, c'est un peu un rêve.
Bonjour, bienvenue sur CNews, de retour avec vous pour une semaine du Carrefour de l'Info.
Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV. Voici les sujets dont nous allons vous parler.
10h, 14h, Frédéric Carbone. France Inter, Interclass.
L'information en continu, enfin pour moi c'est pas utile, parce que du coup il y a de l'information tout le temps en continu et au final ça devient pas important. C'est plus de l'information en fait, c'est juste du reportage. Je me souviens que j'allumais la radio récemment. Enfin, du coup, ça marche aussi pour la radio, en fait. Et la matinale, en fait, c'était le jour du déconfinement, il me semble. Et du coup, ils sont allés dans plein de villes. Ils sont allés à Paris, à Lyon. Et ils ont interviewé des gens qui ouvraient leur café. Et ils leur disaient, vous ouvrez vos cafés, vous êtes contents? Et les gens, ils disaient, oui, je suis content. Et en fait, c'était ça pendant une demi-heure. C'était que des gens qui allaient voir, vous êtes content? Oui, je suis content. On ouvre notre café. Il y a des gens qui viennent. C'est cool. Et au final, c'est pas intéressant, en fait, d'écouter ça quand on veut de l'information. Moi, je pense à BFM TV, c'est peut-être très, très cliché, mais en information, pas information, moi, c'est à ça que je pense. C'est-à-dire que l'information en continu, où t'as des experts qui donnent leur avis sur un truc pas intéressant. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça, en fait, limite aujourd'hui.
Il n'y a pas que du micro-trottoir sur les ouvertures des cafés. Il y a aussi quand même une information de fond qui passe. Alors, effectivement, il y a peut-être une dérive dans les médias comme ça qui sont en info directe, mais bon, là, c'est ce qu'on a essayé de vous montrer quand même. C'est qu'il y a un vrai travail d'enquête qui se fait. Il y a des journalistes qui font leur travail et qui font pas que du micro-trottoir. Tu voulais réagir, Ethan?
C'est toujours la même chose qui passe.
Vous avez dit qu'il y avait des informations de qualité, et bien sûr, il y en a, parce que je crois au fait que voilà, il peut y avoir d'informations intéressantes, des choses comme ça. Mais pour moi, la bonne information est plus compliquée aujourd'hui à avoir que juste l'information comme ça qui passe et qui est facile. Et c'est ça que je trouve dommage, en fait, surtout.
Ils ne peuvent pas dire un jour, aujourd'hui tout va bien et rien à signaler et c'est fini. Ils doivent toujours trouver quelque chose.
Il faut faire attention aux sources où on va chercher l'information, quoi.
Bah après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, même à la télé, ils en disent des fois des fake news. Du coup, ça fait qu'on peut jamais savoir ce qui se passe. C'est plus compliqué de trouver ce que c'est qu'une fake news. En gros, sur Internet, c'est plus facile de s'en rendre compte parce que, on a travaillé dessus cette année en anglais. Tu regardes la source, tu regardes l'état de comment le site il se présente. Alors que quand c'est présenté à la télé, vu qu'en fait c'est présenté au journal de 20h, qu'il y a un programme, que tout, tu te dis forcément que oui, ça doit être la vérité, mais il peut y arriver certaines fois que ce soit des fausses informations qui soient diffusées.
Après, moi, sur la question pour s'informer, je sais pas si vous connaissez la chaîne Brut.
Oui, bien sûr.
Pour moi, c'est une de mes plus grosses sources d'informations parce que je trouve que c'est une information qui est courte, qui est claire et
c'est même bien documenté.
Voilà, et c'est pas que des choses d'actualité, ça nous informe sur plein de choses générales. Et moi, je trouve que pour moi personnellement, c'est ma plus grosse source d'information, en fait.
Interclass à Colombes, production, rédaction en chef, Éric Valmire, assisté de Fanny Léonore Crouzet.
Réalisation, Lilian Alloum. Prise de son, Hélène Langlois, Nicolas Mathias.
Équipe France Inter, Nadine Epstein, Antoine Chao, Fred Kero.
Programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert.
Équipe lycée Caroline Jean, Christine Bonomi.